Saviez-vous que l'on peut considérer Paul Claudel comme auteur de science-fiction à travers un passage de son roman La Ville ? Idem pour Huysmans, qui dans Là-bas évoque une uchronie dans laquelle Jeanne d'Arc n'aurait pas existé, mais aussi, peut-être plus surprenant, Maurras ou Drieux-La Rochelle, qui chacun à leur façon ont envisagé des conjectures romanesques qui font tendre leur œuvre vers la science-fiction. Tout ceci, vous le trouverez soigneusement consigné dans une encyclopédie fascinante, fourmillante, riche et profonde, rétrofiction qui parcourt ce que la francophonie a produit en SF du 15e au 20e siècle, en littérature, en BD, en cinéma, en fiction radiophonique, mais aussi en vaisselle. Rétrofiction, 5 siècles de SF francophone vous contemple, c'est l'imposant récit qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir les deux auteurs un peu fous de cette imposante encyclopédie, parce qu'il faut forcément être un peu fou pour se lancer dans un tel projet. Bonjour à vous, Guy Coste.
Bonjour à tous.
Bonjour, Joseph Alterac.
Bonjour.
Voilà, vous êtes les deux co-auteurs, avec d'autres dont on citera les noms au cours de cette heure, de rétrofiction encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle. C'est aux éditions Ancrage et Belles Lettres. Mais avant de plonger dans cet océan insondable, donc, de la conjecture romanesque rationnelle francophone, elle est le phare qui nous guide chaque semaine dans les eaux tourmentées de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Le Journal des Sciences. Et on commence ce journal par le premier sujet de la semaine. On va revenir, Natacha, sur cette annonce faite le 13 novembre par le CNRS d'un plan d'action sur l'intégrité et la déontologie scientifique pour lutter contre ce qu'on appelle la méconduite scientifique.
Et alors, quand on parle de méconduite scientifique, on parle de fraude, de vol d'idées, de falsification de résultats, enfin de falsification de résultats, de plagiat. Il y a toute une gamme de méconduite scientifique. Et ces 10 dernières années, on a vu une explosion de cas, pas seulement en France. Le CNRS a d'ailleurs été secoué par différents scandales et 2017 a battu un record plutôt inquiétant. Alors, pour dissuader les fraudeurs et pour encourager les lanceurs d'alerte, le CNRS met donc en place un plan d'action. Le plan prévoit un référent intégrité scientifique et un référent déontologue autour desquels vont s'organiser un bureau. En cas de soupçon de fraude, n'importe quel citoyen peut aussi alerter ses référents via une adresse mail lancement.alerte@cnrs.fr. Antoine Petit, le président du CNRS, nous explique la politique et le fonctionnement de ce plan d'action.
Je pense qu'il faut être absolument impitoyable avec les tricheurs parce que c'est des gens qui nuisent à la réputation de la science et celle de la communauté scientifique. Pour moi, c'est analogue, si vous voulez, aux sportifs de haut niveau qui se dopent. Je pense qu'il faut être très sévère et il faut que la crainte de la sanction dissuade les gens qui auraient des intentions de tricher de le faire. Et donc, tout le monde peut saisir ce référent intégrité scientifique, mais de manière non anonyme, c'est-à-dire que ce référent intégrité scientifique ne recevra pas d'accusations ou de soupçons anonymes. Par contre, il garantira la confidentialité totale des gens qui portent les accusations. Si ces gens le souhaitent, le référent intégrité scientifique, à un moment, pourra me dire « Écoutez, là, le cas que nous avons étudié, effectivement, semble être de nature à mettre en cause la bonne foi du scientifique qui a écrit l'article. » Et il faut que nous mettions en place une commission, cette fois de spécialistes précis du sujet. Et c'est cette commission qui ne sera pas rendue publique. C'est-à-dire que nous définirons les critères de conflit d'intérêts. L'histoire récente nous montre que lorsque quelqu'un est membre d'une telle commission, il est lui-même souvent mis en accusation si on veut absolument ne pas tomber dans un système où on aurait une espèce de police de la police des chercheurs qui serait spécialisée dans l'examen des soupçons de fraude.
Alors cela affirme bien la volonté forte du CNRS dans la lutte contre les tricheurs, mais ce plan d'action suscite différentes critiques. Certains ont rappelé le cas d'Anne Perroche, l'ancienne présidente par intérim du CNRS, accusée d'avoir falsifié des résultats de plusieurs études. C'est une affaire qui est toujours en cours. D'autres pensent que le plan ignore les raisons pour lesquelles le nombre de cas d'inconduite scientifique explose, à savoir des chercheurs sous pression et en compétition, une précarisation du métier ou un manque de rigueur des revues. Et puis plus concrètement, certains aspects de ce plan posent question, notamment celui de l'anonymat des lanceurs d'alerte et surtout celui du comité d'experts. Sylvestre Huette est journaliste scientifique indépendant. Pour lui, la transparence est indissociable de la notion de confiance.
Le problème principal, c'est celui de l'anonymat des pairs qui vont être réunis pour instruire le dossier. On sent bien que ça n'est pas possible. De la même manière que, d'une manière générale, il y a un débat dans la communauté scientifique sur l'anonymat des référents, des gens qui relisent les articles apparaître dans les publications. Là, on voit bien que pour que la société ait confiance, et même l'ensemble du système scientifique ait confiance dans l'instruction qui est faite, il n'y a pas de raison que ça soit anonyme. On a besoin de pouvoir vérifier que les scientifiques qui vont être réunis pour instruire un dossier sont à la fois compétents, libres et qu'ils n'ont pas de lien d'intérêt avec les scientifiques dont ils sont chargés d'examiner les travaux. Surtout quand on a affaire à des dossiers qui concernent des scientifiques qui étaient assez haut placés dans le système.
En bref, maintenant, lutte contre le tabagisme. Selon la dernière étude de l'INSERM, les paquets neutres qui ont été instaurés début 2017 seraient dissuasifs pour les adolescents.
C'est surtout pour lutter contre l'initiation au tabagisme que les paquets neutres fonctionnent. Les 12-17 ans sont de moins en moins nombreux à devenir fumeurs. Ils sont 21% aujourd'hui à fumer leur première cigarette, soit un jeune sur 5. En 2016, ils étaient 1 sur 4. Alors, c'est une baisse légère mais significative. Et en effaçant ainsi les traces marketing du paquet, le but était de dénormaliser le tabagisme et de le rendre moins attractif.
50 ans après Neil Armstrong, l'homme devrait retourner sur la Lune. C'est en tout cas ce qu'annonce un blockbuster, une sorte d'annonce vidéo digne d'un blockbuster publié par la NASA.
Oui, pour le moment, c'est surtout un gros effet d'annonce. Le but, créer une base permanente sur la Lune pour servir d'escale ou de base de ravitaillement pour les astronautes en direction de Mars. Alors, des alunissages humains sont déjà prévus dès 2023 et la préparation à une autre mission habitée pour Mars est prévue, elle, pour les années 2030.
Deuxième sujet de ce journal, la découverte cette semaine d'une molécule clé du vivant dans les recoins de la lithosphère océanique, Natacha.
Et plus exactement dans l'Atlantique Nord, dans la zone géologique appelée Lost City, qui est à plus de 800 mètres de profondeur. Une équipe française de l'Institut de physique du globe de Paris a étudié un échantillon de croûte terrestre venant de 170 mètres de profondeur sous le plancher océanique. Et pour la première fois, les chercheurs ont mis la main sur du tryptophane abiotique. Le tryptophane fait partie des acides aminés, briques élémentaires pour élaborer des protéines, biomolécules clés pour le développement du vivant. Et ce tryptophane abiotique est le fruit d'une réaction chimique qui a eu lieu à des temps très anciens, c'est-à-dire autour de 3,8 ou 3,9 milliards d'années. Alors cette découverte, c'est la preuve que des acides aminés se sont formés en profondeur. Jusqu'à présent, on invoquait le plus souvent la source des astéroïdes ou des météorites, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce que nous explique Bénédicte Ménez, responsable de l'équipe de géobiologie de l'IPGP.
C'est un des acides aminés qui fait partie des protéines actuelles. Alors pour l'instant, nous, on ne peut pas affirmer, on a vu qu'il se formait de manière non biologique. On ne peut pas affirmer que c'est une des briques du vivant qui a constitué un élément clé dans la formation des premières cellules. Par contre, on sait que cet acide aminé, il est aussi très réactif. Il a un rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'il peut favoriser la création d'autres molécules plus complexes comme des sucres ou des acides nucléiques. Et donc, du coup, c'est le début d'une chimie qu'on appelle prébiotique, c'est-à-dire qui a précédé l'apparition du vivant, qu'on met en évidence en profondeur dans les roches terrestres. C'est intéressant parce qu'effectivement, à cette époque, la surface de la Terre était très inhospitalière. On avait énormément de radiations et puis de bombardements météoriques. Et donc, du coup, d'où l'idée que la vie ait pu apparaître dans un environnement un petit peu protégé de ces conditions inhospitalières, plus en profondeur dans les roches. Et donc dans des petits ports dans lesquels, en fait, ces molécules ont la possibilité de se complexifier, d'évoluer avant même d'être détruites.
En bref, les chercheurs ont découvert par radar l'existence d'un hotspot, d'un point chaud tout près du pôle sud.
Cette source de chaleur sous les glaces, c'est assez inattendu. Dans cette zone, l'Antarctique orientale, il ne devrait pas y avoir sous la glace autant d'eau fondue. Alors rien à voir avec une fonte des glaces liée au changement climatique, mais les scientifiques ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. L'une des hypothèses est celle de l'énergie hydrothermale. une faille géologique pourrait pulser l'eau des profondeurs chaudes jusqu'à la glace. Jusqu'à présent, on pensait que l'Antarctique était faite de roches anciennes et froides, qui avaient peu d'impact sur la calotte glaciaire du dessus. Les chercheurs poursuivent leurs études et prélèvent des échantillons de cette glace.
Une étude d'endocrinologie montre que les femmes sont aussi résistantes que les hommes à l'effort physique intense.
C'est la première étude de ce genre. En 2012, pour replacer, il y a eu lieu le Ice Maiden Expedition, la première expédition transantarctique.
Et Ice Maiden, ça veut dire vierge de glace. Non, mais ça peut intéresser nos invités.
Voilà, donc ces six femmes ont traversé l'Antarctique à ski pendant 2 mois. Des chercheurs de Glasgow ont ensuite examiné les effets de cet effort physique extrême sur leur santé. Indicateurs de stress, niveau d'hormones, poids corporel, force des os. Conclusion, il n'y a pas plus d'effet négatif sur leur santé que sur celle des hommes. Donc contrairement aux idées reçues, avec un entraînement approprié, les femmes sont aussi résilientes que les hommes pour des activités physiques intenses.
Je ne vous promets pas de faire 1000 km à ski cet hiver. Et en ce moment se poursuit, Natacha, le championnat du monde d'échecs. C'est une compétition historique qui bat des records avec les deux finalistes, Carlsen et Caruana.
Les stars des échecs s'affrontaient aujourd'hui, encore une fois, match nul pour la 10e fois consécutive. 5 points partout, il ne reste pourtant plus que 2 rencontres ce week-end. Alors pour reprendre les mots du journaliste scientifique Pierre Barthélémy, alias passeur de sciences, est-il temps de réfléchir à un changement de format pour ces duels où les joueurs ont-ils atteint un tel niveau qu'il leur est presque impossible de se départager ?
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une étude qui a particulièrement passionné l'équipe de la méthode scientifique toute cette semaine, celle de chercheurs en biomécanique, qui s'intitule « Comment les wombats font-ils caca en cube ?»
Alors, avant la parution de cette étude, moi je n'étais pas au courant que le wombat, cet hamster géant d'Australie, faisait des crottes cubiques.
Peu de monde était au courant, en fait, avant, si ça peut vous rassurer.
C'est assez étonnant, ça ressemble à des petits brownies de 2 cm de côté, et dans le règne animal, c'est unique. Et le wombat, en fait, les empile devant son terrier pour faire une petite construction. Alors, première question, pourquoi ? C'est un marsupial qui est très territorial, il fait ses petits tas. Voilà, c'est une façon pour lui de communiquer, nous dit l'étude. C'est vraiment un mode de communication sociale pour marquer leur territoire et puis pour affirmer, plus le petit tas est haut, plus le wombat affiche qu'il est en grande forme. Mais pour ces spécialistes de l'hydrodynamique de la défection, il restait un mystère, comment ?
Et oui.
Et alors non, Nicolas Martin, non. Le rectum du wombat n'est pas carré, tout est dans l'intestin. La dissection de l'intestin de l'animal a montré que l'effort du boyau n'était pas le même partout. C'est ce qui explique la formation des faces des cubes et de ses arêtes. En tout cas, on sait ce qu'il nous reste à faire pour bien marquer notre territoire.
Oui, eh bien, je ne reviendrai pas dîner chez vous, Natacha. Merci beaucoup pour ce journal des sciences. Peut-être un mot à nous visiter, quand on est fan de science-fiction, ça veut dire qu'on est aussi curieux de l'actualité scientifique, Guy Coste ?
Oui, bien sûr, curieux, voire passionné. Mmh. Il y a des sites entiers consacrés à ça et au rapprochement entre la science et la science-fiction, ou la science-fiction et la science, ça marche dans les deux sens.
Joseph Alterac ?
Oui, je confirme. En fait, on a longtemps reproché aux écrivains français de ne pas assez, je parle d'écrivains français de science-fiction eux-mêmes, de ne pas assez s'intéresser aux sciences. Je crois que la belle époque de Rony est revenue et les écrivains français de science-fiction actuels s'intéressent de très près à l'évolution de la science.
On a reçu il y a peu de temps Laurent Genefort qui suit de très 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 près la science, parfois la plus complexe en tout cas, et vous aurez le plaisir de savoir que sur le fil Twitter de la méthode scientifique, il y a des crottes de wombat en photo, si vous voulez vraiment savoir à quoi ça ressemble. Voilà donc, à 16h, bientôt 15 sur France Culture, il y a 2 imposants volumes à mes côtés. Je vous regardez, voilà, je fais comme ça un peu de bruit pour vous rendre compte que c'est 2 très très gros volumes. Rétrofiction, encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle. C'est une coédition Ancrage et Belles Lettres. C'est une encyclopédie qui a donc pour ambition de recenser dans la littérature francophone du 16e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, 1951 précisément, toutes les occurrences de ce qu'on nomme aujourd'hui science-fiction, c'est-à-dire précisément de la conjecture romanesque, et on reparlera un peu de ce terme et de cette définition. Autant cette conjecture romanesque rationnelle chez les auteurs de littérature dite classique que chez les auteurs spécialisés. autant pour ce qui concerne les romans que la bande dessinée, le cinéma, les feuilletons radiophoniques et même des objets plus saugrenus comme des timbres ou de la vaisselle. Les deux passionnés qui sont derrière cet ouvrage, qui recense donc 11 000 occurrences pour 5 000 entrées onomastiques, n'en sont pas à leur coup d'essai. Vous aviez publié l'un et l'autre en 2006 Les Terres Creuses, bibliographie commentée des mondes souterrains imaginaires. Nous sommes donc ravis de vous recevoir aujourd'hui, Guy Coste et Joseph Alterac. Bienvenue à vous. Et peut-être, c'est toujours difficile de savoir par où commencer quand on est face à une somme aussi imposante. Et je me suis dit que finalement, une bonne façon de commencer cette émission serait peut-être de faire ce qui est le plus intuitif quand on se retrouve avec ces volumes entre les mains, c'est d'aller fouiller dans l'index. Cet index thématique qui a des entrées absolument magiques. Je peux vous en citer quelques-unes. Communisme ou socialisme, réaction tsariste. Napoléon, résurrection. Ou le distinguo important, pieuvre, kraken ou poulpe, attaque en surface ou attaque sous-marine. On a aussi des entrées comme sculpture, galvanoplastie et pétrification. C'est une sorte de labyrinthe foisonnant d'un panorama étrange et bizarre. Comment vous le définiriez, Guy Coste ?
C'est un éventail à la Prévert, oui. On a mis toutes les idées conjecturales que nous connaissions en ordre. On les a déclinées en sous-thèmes et ensuite on a mis un titre à chacune de ces entrées. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, et j'ai oublié d'en parler à la préparation de l'émission, c'est l'écologie. C'est très à la mode, mais on se rend compte que c'était aussi à la mode au 18e, au 19e et pendant tout le 20e siècle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La poésie, qu'on a mis sur le même plan que les romans, nouvelles et autres entrées de l'encyclopédie, et les chansons, parce qu'il faut être gay aussi dans la littérature. Voilà.
Joseph Alterac, sur cet index et sur le travail monumental que représente le travail d'indexation que vous avez fourni, outre le travail monumental que représente cette encyclopédie dans son ensemble.
En fait, l'idée de l'index, elle est venue de travail de Bleyler, père et fils, qui sont des érudits américains, qui ont, avant nous, ont fait des ouvrages un peu de, qu'on pourrait comparer à rétrofiction, consacrés à la science-fiction américaine, on va dire ancienne, et aussi au fantastique américain. Et dans les deux cas, dans deux ou trois de leurs ouvrages, ils ont dressé des index thématiques. Et au début, c'est assez amusant. Enfin, on feuillette les index et on voit, alors en anglais, je vais pas le dire en anglais, je parle mal anglais, tout le monde se moquerait, mais Martien a quatre bras, trois yeux, etc. Il s'amusait à détailler. Et c'est plutôt amusant au départ. Et à l'époque, quand j'ai découvert ces ouvrages-là, je faisais un certain nombre de petites recherches sur Mars et compagnie, je me suis aperçu avec étonnement que c'était utile. Hein, donc on s'est dit finalement, pourquoi ne pas faire ces index détaillés qui ont l'air un petit peu comme ça farfelus. Alors je crois qu'on n'a pas mis l'entrée raton laveur, mais on est pas loin. On a mis un certain nombre d'animaux bizarres.
On va nous le reprocher.
Zoologie imaginaire ou cryptozoologie, on a fait un petit renvoi. Et finalement, on s'est un peu pris au jeu. Faut quand même être honnête. On n'a pas travaillé d'une manière si systématique que cela. Un certain nombre d'idées, de thèmes nous sont venus au fur et à mesure de notre travail, hein, parfois.
Et puis l'informatique permet de rattraper le coup après coup,
voilà.
De se corriger et d'ordonnancer tout cela de manière plus simple que à l'époque de Voltaire où il écrivait à la chandelle et à la plume d'oie.
On va revenir sur vos travaux, peut-être dire un mot parce que ça n'est pas votre coup d'essai, hein, je le disais, il y a un ouvrage qui préfigure un peu ce travail titanesque que représente Rétrofiction, votre première collaboration sur les Terres Creuses. Mais avant cela, j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous êtes lancé dans cette gigantesque œuvre de recension de la littérature, des littératures de l'imaginaire. On pourrait dire ça comme ça, Joseph Alterac.
Ça, les rencontres sont des rencontres, on va dire, d'amateurs. Hein. C'est un autre amateur de science-fiction, Dominique Martel, de l'association 42, pour ne pas le citer, qui nous a fait nous rencontrer. Mais je crois qu'on vient tous, plus ou moins de la lecture de Pierre Versin.
Bien sûr.
Je crois que c'est vraiment
le commun dénominateur.
Hein,
toute une Pierre série Versin, l'encyclopédie de l'utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction qui date de 72, c'est ça ?
72, c'est ça. Oui.
Ouais. Réédition 84.
Ouais. Donc les amateurs se rencontraient d'une manière ou d'une autre, soit comme ça, de bouche à oreille, soit par des échanges, soit chez des libraires, des courriers de lecteurs aussi, des gens qui s'abonnaient à des petites publications qu'on appelle les fanzines, hein, dont certains édités par Pierre Versin d'ailleurs. Tout ça, ça a construit un espèce de petit monde qui communiquait pas si mal, même si l'internet n'existait pas, donc il communiquait avec la vieille méthode d'envoyer des lettres écrites à la main.
Avec un timbre.
Je sais plus, j'arrive plus à écrire à la main avec un timbre. Mmh. Et ça se fait plus tellement aujourd'hui, mais avant ça fonctionnait comme ça, avec des fanzines tirées à 100 exemplaires que les gens s'échangeaient, voilà.
Et qu'on achetait dans les librairies spécialisées.
Dans certaines librairies spécialisées, effectivement, à certaines époques c'était difficile, hein, parce que à l'époque où Versin faisait ça, donc lui au milieu des années 50. Il a commencé un peu là. C'était des choses rares. Hein. Très peu de gens étaient au courant de l'existence de ces fanzines. En tout cas, une petite communauté s'est constituée comme ça. Et dans cette communauté d'amateurs de science-fiction, les amateurs de science-fiction, on va dire anciennes, ont constitué un noyau particulier.
Qui s'est réuni d'ailleurs autour d'une publication, le Bulletin des amateurs d'anticipation ancienne et de littérature fantastique, à partir des années 90. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre, vous le dites, hein, de l'ordre de la collection, parce que vous travaillez en partie sur ce que vous-même, vous avez réussi à retrouver, amasser, collectionner l'un et l'autre.
Oui, alors Joseph va s'insurger. On ne se définit pas vraiment comme collectionneur, mais comme
quand même pour
rassembleur.
Les assiettes ornées, là.
Oui, les assiettes ornées, ça c'est un péché mignon que Joseph est en train de dévoiler. Mais on rassemble de la documentation qui nous permet de pouvoir travailler chez soi. Joseph n'aime pas les bibliothèques publiques pour des traumatismes d'enfance, certainement, voilà, ça lui permet de travailler chez lui. Moi aussi, je suis un peu plus exigeant sur l'état des bouquins que les siens. Ça nous fait rigoler, mais on travaille au départ comme ça. Après, que je vous l'ai dit, l'informatique permet de travailler un peu dans n'importe quel ordre. Et après, tout ça est ordonnancé, indexé et fait ce qui est rétrofiction. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les bibliothèques publiques c'est intéressant comme lapsus. Dans les bibliothèques publiques,
une expérience c'est véritablement terrible. Je ne me suis toujours pas remis. C'est que mes parents m'avaient commandé la belle série en 12 volumes des chefs-d'œuvre de la science-fiction dirigée par Jacques Bergier. Et on trouvait ça dans Télé 7 jours. Il y avait des abonnements. Et donc j'ai reçu
des
ça.
Clubs.
J'étais absolument ravi. Voilà, des clubs. C'était les éditions Rencontres, qui publiaient de très bonnes choses d'ailleurs. Et il y avait une espèce de dépliant et un début dans lequel Bergier faisait une histoire de la science-fiction et donnait toute une série de titres. Alors moi, j'avais copié tous les titres que notait Bergier, et puis je m'étais rendu à la bibliothèque municipale d'Hermont, Val d'Oise. Je n'ai pas trouvé un seul titre. Et donc je me suis dit, non, c'est pas dans les bibliothèques que l'on trouve des livres de science-fiction. Voilà la raison. Alors, c'est pas entièrement la faute de la bibliothèque, parce que Bergier avait cette particularité, mais à l'époque ça se faisait beaucoup, de donner un titre d'ouvrage en le traduisant, mais sans préciser que l'ouvrage n'avait pas été traduit en français, ce qui fait qu'effectivement, il était difficile de le trouver dans une bibliothèque, n'importe laquelle d'ailleurs, à partir de ce renseignement. Mais voilà, depuis cette époque-là, la plupart des ouvrages que j'utilise, je les achète, hein, je me les procure. Alors maintenant, il y a une nouveauté, c'est que soit on envoie des espions dans les bibliothèques, hein,
on se sert de Gallica depuis.
Ou on se sert de Gallica, voilà. Cette méthode permet de ne pas avoir à entrer à l'intérieur de la bibliothèque.
Ça dit tout de même quelque chose du manque de diffusion de la science-fiction en France pendant très longtemps, et peut-être d'une bascule dont on parlera tout à l'heure, du triomphe de la science-fiction anglo-saxonne à un moment donné. Après l'arrêt de rétrofiction qui s'arrête en 51, là aussi on y reviendra.
Oui, on n'a pas choisi au hasard cette date, oui.
Alors, avant peut-être un mot sur cette première ambition, moi que je trouve merveilleuse. Comment est née cette idée de faire ce premier projet commun qui s'appelle Les Terres Creuses, c'est-à-dire une sorte de bibliographie commentée, une bibliographie commentée des mondes souterrains imaginaires. Comment est née cette idée, Guy Coste?
Alors, elle est née après l'idée de rétrofiction. En fait, quand on s'est rencontrés, on a vu que nos centres d'intérêt étaient communs, que j'ai pu apprécier l'érudition de Joseph.
Et je ne m'intéresse pas beaucoup aux anciennes ornées, mais j'en ai une qu'il faut que je te donne.
D'accord. Et voilà, j'ai perdu le fil. C'est malin.
Il a réussi, lui, en tout cas, à vous mettre un petit tac comme ça, à vous faire. Bon, alors, l'idée de la bibliothèque des Terres Creuses est venue après Rétrofiction.
Elle est venue après Rétrofiction, mais en fait, elle est parue avant parce que j'ai fait lire le manuscrit dans l'état où il était. C'était lors d'une convention à Nancy, autant que je puisse me rappeler, à Joseph, qui m'a dit, écoute, c'est bien simple, j'arrête tous mes travaux en cours, on fait ensemble quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus ambitieux, et voilà, c'est comme ça que sont nées les Terres Creuses.
Mais pourquoi les Terres Creuses? Pourquoi ce registre-là particulièrement?
Parce que j'ai fait de la spéléo. Voilà. Okay. Joseph, je ne sais pas, mais il s'est bien mis au truc. Et voilà, on a fait
c'est
un travail
ça,
commun.
Oui, alors là, effectivement, la spéléo, là, toi, tu as une raison très précise. J'en ai une autre aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai flashé là-dessus. D'abord, l'intérêt de la liste et des ouvrages cités. Tout de suite, ça parle. On se dit, on a envie d'en savoir
creuser.
Plus, hein, de creuser, c'est voilà, bravo, voilà, voilà, on a réussi à faire un truc intéressant au niveau du jeu de mots, et puis aussi, j'avais toujours été frappé par la fameuse lecture du Matin des Magiciens de Barger Powell, où il y avait ces histoires de théories de Terres Creuses qui étaient plus ou moins développées de manière plus ou moins sérieuse, et c'était des idées. Les terres creuses, soit la terre est vraiment creuse, on entre à l'intérieur, il y a un soleil central et tout, soit l'histoire complètement délirante de l'idée d'une terre concave, bon, on va pas développer là-dessus, mais ces idées de cosmogonie alternative m'avaient toujours fasciné, et je me suis dit, tiens, avec le travail de Guy, c'est une occasion de faire une espèce de point, parce que dans notre répertoire, on a aussi rédigé une très longue introduction, où on essaye de faire un petit peu un historique de ces théories, avant d'entrer dans le décortiquage ouvrage par ouvrage et classé chronologiquement, si je me souviens bien, c'est comme ça qu'on a fait.
Introduction d'ailleurs beaucoup plus importante que pour Rétrofiction,
où
là on a fait 4 pages.
On a fait un mode d'emploi. Méthode, voilà. Alors justement, venons-en à Rétrofiction, c'est donc un projet qui remonte à avant, qui est, vous le dites l'un et l'autre, très inspiré dans la volonté de poursuivre le travail de Versin.
Oui, bien sûr, on s'est même approprié son concept, qui est celui de la conjecture romanesque rationnelle.
Alors parlez-nous de ça, pourquoi est-ce que le mot science-fiction était trop anachronique pour l'appliquer à l'ensemble de ce que vous recherchiez dans la littérature?
Il est apparu en 1926-1929, donc pour expliquer qu'il y avait aussi ce type de fiction au 16e, 17e, 18e, c'était un peu compliqué de l'appeler science-fiction. Donc, il y a plein de termes qui sont greffés là-dessus. Il y a le merveilleux scientifique, il y a le... Voilà. Tout ça, on ne pouvait pas l'appeler la science-fiction. Mais nous, ça nous intéressait. Et de faire une bibliographie commentée comme on l'a rédigée là, c'est ce qui nous a plu. En fait, c'est l'histoire des idées qui nous plaît. L'évolution, la science-fiction, enfin, la littérature de science-fiction est une des rares où les acquis du prédécesseur sont remis en œuvre par les auteurs suivants. Et ça, c'est capital. Et c'était vrai aussi au XVIIe, au XVIIIe siècle.
Un mot, Joseph Alterac, sur cette notion de conjecture romanesque rationnelle. Ça a été une évidence pour vous tout de suite de donner ce sous-titre-là, en tout cas de donner cette acception-là à cette expression pour définir ce que vous cherchez dans la littérature.
C'est une évidence parce que, comme le dit Guy, de toute façon, nous on a décidé tout de suite de se mettre dans les pas de Pierre Versin. Donc c'était une évidence. Il faut savoir que l'expression de Pierre Versin, qui avait d'ailleurs été résumé par un acronyme qui n'est pas très heureux, que je trouve qui est Cora, que personne n'emploie, sauf quelques vieux connaisseurs, Kakoshim. on préfère dire conjecture, on va dire ce rationnel. Ça n'a pas, à l'époque, ça n'a pas forcément séduit, au fil du temps, des tas de travaux, de tentatives de définir la science-fiction, déjà c'est un problème, de voir s'il n'y avait pas d'autres termes possibles à appliquer. Finalement, tout bien pesé, en feuilletant l'ensemble des recherches universitaires ou pas, pénibles à lire ou intéressantes, souvent pénibles à lire dans le cas universitaire, il faut bien l'admettre, on a pensé qu'il valait mieux revenir revenir à l'expression de Pierre Versin, qui avait l'avantage d'écumer un peu large, mais qui précisément évitait de tomber dans ce piège de vouloir de toute force donner une définition carrée, on va dire, de la science-fiction. Alors, la science-fiction, c'est oui, fait partie de la conjecture romanesque rationnelle. Mmh. Mais la conjecture romanesque rationnelle, c'est un petit peu plus vaste que ça.
L'utopie, un ensemble plus large. Voilà. L'utopie qui est importante, c'est le début, c'est le premier bloc d'ouvrage de Versin.
On va dire que c'est le premier bloc. Hein. Un écrivain et un théoricien et directeur de collection comme Gérard Klein considère qu'il y a une filiation entre l'utopie et la science-fiction. Je suis assez d'accord avec lui, mais c'est une thèse qui se débat, hein, qui n'est pas si évidente que cela.
On va y revenir sur les choix, notamment du point de départ de cette encyclopédie. Peut-être un mot tout de même, qui est un pas de côté important par rapport aux travaux de Versin, c'est que vous choisissez de vous cantonner à la francophonie, Guy Coste. Et vous le choisissez tout de suite, ou est-ce que c'est après un peu de débat? Comment est-ce que ça s'est passé?
On a rapidement compris qu'on allait avoir une grenouille qui allait devenir bien plus grosse que le bœuf, uniquement même déjà avec la francophonie seule. Rajouter le monde entier aurait été une folie absolue. Et puis on nous fait déjà le reproche d'avoir un poids excessif avec ces deux ouvrages-là.
Non, c'était tout, pas la peine d'y aller. Largement aggravé depuis que je trimballe vos livres. Ouais.
Voilà que je voulais dire pour ce sujet.
Oui, on s'est aperçu au fil du travail. On a assez vite décidé de toute façon de faire dans le domaine francophone seulement, tout simplement pour des raisons de compétences. Je ne sais pas que nous sommes totalement ignorants du domaine anglo-saxon.
Je parle très mal l'allemand.
J'ai 3-4 connaissances sur la science-fiction allemande aussi.
Vous limitez
ancienne,
pas très bien non plus d'ailleurs. Voilà, hein.
Je pourrais vous le faire en italien, c'est encore
je
pire.
Je suis pas sûr qu'on va se lancer dans ce
voilà, défi-là. Voilà, il y a la science-fiction italienne. Vouloir faire quelque chose d'international, avec notre décision d'être si précis et si complet, c'est un travail qui n'est pas possible. Il faut qu'il y ait nos alter ego, ouais, dans les langues en question. Il faut que des germanophones fassent la même chose pour le monde germanophone, que des anglophones, là il y en a quand même un certain nombre qui ont déjà fait un certain nombre de travaux et qui continuent à en faire là-dessus. En Espagne, en Italie, il faudrait qu'ils se réveillent un peu, les Italiens, qui fassent leur encyclopédie de la Fantasienza. Hein,
il y a des choses sur le populaire qui ont
oui, il y a des
paru,
choses, mais il faut mais faire
en
quelque
fait,
chose de
l'équivalent,
plus,
je ne le connais pas.
Il faut faire quelque chose de plus systématique, me semble-t-il. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Right.
Le générique de début du Rocky Horror Picture Show Science Fiction Double Feature qui égrène toutes les grandes stars du cinéma de science-fiction des années 50. C'est intéressant puisque c'est exactement là où vous vous arrêtez, d'où le point de liaison avec ce morceau du jour. Et je ne vous révélerai pas ici à ce micro mon passé avec le Rocky Horror Picture Show qui doit rester dans les annales oubliées de l'animation cinématographique. Bref, tout ça pour vous dire que nous recevons aujourd'hui les deux auteurs de l'encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone rétrofiction. C'est publié chez Ancrage et aux Belles Lettres, Guy Coste et Joseph Alterac, une somme vraiment impressionnante et passionnante. Peut-être justement, puisqu'on parle de la fin donc des années 50, vous dites et vous expliquez assez bien que l'imaginaire de science-fiction qui est celui que, qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire les extraterrestres, le voyage interstellaire, le voyage dans le temps, est un imaginaire finalement littérairement extrêmement récent, Joseph Alterac.
Oui, alors, disons que bon, des extraterrestres, il y en a depuis longtemps, en conjecture romanesque et rationnelle, depuis même très longtemps. Mais je pense que ce travail, une fois à peu près terminé, on se rend tout de même compte qu'il y a un certain nombre de thèmes qui, pour certains, pour moi, des thématiques sont nouvelles, ou alors, lorsqu'elles ne sont pas nouvelles, sont très rares. Prenons l'exemple du voyage dans le temps, qui a l'air d'une chose absolument évidente aujourd'hui. On fait la recension dans, je ne sais pas combien on a recensé de titres, mais enfin,
c'est presque banal aujourd'hui. Ouais.
Voilà, c'est pour 4 siècles, hein, on couvre 4 siècles avec ce travail hein, de la littérature française, c'est-à-dire du pays, de la culture et de la littérature. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça.
Oui, on finit par se dire que 11 000 occurrences, c'est pas beaucoup. Pour voilà. 4 siècles.
L'Uchronie.
Pour 5 000 entrées onomastiques. Hein.
Voilà. Mm-hmm. Voilà.
C'est vrai que quand on voit le nombre d'ouvrages par année, ça culmine évidemment au 20e siècle avec un pic, je crois, en 1946 où il y a quasiment 350 titres. Mais sinon, on est sur une dizaine, une vingtaine d'œuvres par année avant ça.
C'est pas considérable. Hein.
Ça donne une somme considérable.
Voilà, ça donne une somme considérable, mais sur 4 siècles, c'est pas énorme. Et on voit aussi que certains thèmes sont très peu utilisés. Bon, l'Uchronie, dont on a un tout petit peu parlé là, en réalité, on cite ces exemples. Alors, ils sont à la fois très intéressants et passionnants, mais ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, un thème comme le monde parallèle, le voyage dans le temps et les paradoxes temporels, ce sont des choses qui sont évidentes pour le public de la science-fiction aujourd'hui, et même le grand public. Ces thèmes-là, le paradoxe temporel, par exemple, sont quasiment absent. Il faut attendre le célèbre texte
de Wells.
Je parle du paradoxe. Hein, pour le paradoxe temporel, il faut attendre. Attention, paradoxe temporel, il faut attendre le voyageur imprudent. Hein, oui, sinon, il n'y a pas de paradoxe. Hein, il n'y a pas dans. On va dans le passé pour tuer un ancêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est jamais traité dans la conjecture romanesque rationnelle des 4 siècles que nous avons étudiés. Hein.
Alors, quand on est dans l'index à voyage temporel, il y a tout de même un certain nombre d'entrées. Il y a un certain nombre, surtout, de sous-catégories. Hein. Il y a la sous-catégorie décalage temporel ou animation suspendue. Il y a la sous-catégorie vision transtemporelle machine. Il y a la sous-catégorie vision transtemporelle surnaturel. Il y a la sous-catégorie voyage temporel à déroulement contrôlé, voyage temporel à rebroustant ou à l'envers, voyage temporel blocage ou boucle, paradoxe de Langevin, scientifique ou avec machine. Ça veut dire qu'il y a quand même, ça a été bien exploité, mais évidemment ça, vous dites plutôt au XXe siècle et plutôt dans la deuxième moitié de la première moitié du XXe siècle, Guy Coste.
Oui, et encore dans les sous-catégories qu'on a voulu traiter dans l'index, on est beaucoup moins précis que Blyler dont parlait Joseph tout à l'heure. Eux, c'est complètement hallucinant. Et à la lecture rien que de l'index, on est complètement perdu. D'ailleurs, au début, on se disait l'index, ça va aider le lecteur, il va s'y retrouver. Mais non, il s'y perd aussi. Ah,
c'est une belle façon de rentrer, pour moi, en tant que lecteur, en tout cas, de cette encyclopédie.
Oui, c'est une vraie belle,
porte d'entrée. D'autant que les auteurs, les deux façons d'aborder quand on est amateur de science-fiction, et là je parle vraiment à titre très personnel, c'est d'aller chercher les auteurs qu'on connaît.
Bien entendu. C'est-à-dire
évidemment quelques
noms connus. C'est la première chose que font les gens, oui.
Soit en littérature générale, classique, soit en littérature spécialisée, et ensuite aller se perdre dans l'index. Et alors là, quand on commence à se perdre dans l'index, c'est sans fin.
C'est la fête.
C'est Noël, ça tombe bien, c'est bientôt Noël, c'est un magnifique livre pour les fêtes. Je le redirai tout à l'heure. Peut-être un mot pour dire, donc, pourquoi ces bornes, comment vous les avez choisies? Est-ce qu'elles se sont imposées à vous, la borne de départ étant Pantagruel de Rabelais en 1532 et la borne de fin étant 1951 Qui veut répondre à ça?
On avait imaginé au tout départ mettre en avant la première utopie française réelle, qui est un anonyme qui s'appelle le Royaume d'Antangile, qui remonte à 1616. Ça fait un siècle quand même après Thomas More et son utopie. Et puis, on s'est rendu compte que le vrai premier utopiste francophone pouvait être Rabelais à cause de son abbaye de Thélem. Et là, il n'y a pas eu d'hésitation. À partir du moment où on a fait ce constat, on est remonté jusqu'à Rabelais. Il n'y a pas tant d'occurrences que ça entre Rabelais et Antangile qu'on puisse en venir à bout. C'est un peu ce qu'on a ressenti. Donc, on est remonté jusqu'à Rabelais. Et puis ensuite, on a décidé d'arrêter en 51 parce que c'est l'apparition des premières collections françaises, j'allais dire francophones, mais non, françaises, de science-fiction, avec Anticipation du fleuve noir, on l'a dit tout à l'heure, et Le rayon fantastique de Hachette Gallimard. Voilà.
Pourquoi vous arrêtez justement en 51, au moment où ce qu'on appelle aujourd'hui le début de l'âge d'or de la science-fiction?
À cause du poids. Oui, à cause du poids notamment, ça c'est sans doute la première raison. Non, la raison c'est que ça vient aussi de témoignages de personnes, il en reste sûrement beaucoup, qui ont connu ces époques-là. Par exemple, on pouvait en discuter, hélas disparu André Ruellan, hein, Kohlsteiner, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Mais on peut toujours en discuter avec des auteurs qu'on a connus, Philippe Curval, Gérard Klein. Et tous disent que, même si on prend Philippe Curval, qui connaissait bien, lui, dans sa jeunesse, la science-fiction, on va dire ancienne, la science-fiction française, ancienne, l'arrivée de ces textes anglo-saxons a constitué un choc véritable. Hein. Et il y a vraiment une différence de ton. Moi, j'aime bien citer l'exemple de La poursuite d'Eslan de Van Vogt, c'est un auteur que j'aime beaucoup, Van Vogt. Hein. Lorsqu'on lit le début de ce roman, La poursuite d'Eslan, donc qui est traduit dans le rayon fantastique d'Hachette Gallimard, on assiste à une scène, c'est un jeune gamin avec sa mère et les deux sont traqués. Ils sont traqués, une espèce de police cherche à les attraper et à les tuer. Ça démarre sur les chapeaux de roue et le roman va être comme ça tout le temps, une succession de surprises, d'étonnements. C'est la même chose en lisant le Monde des Nonas, traduit par Boris Vian, mais toujours de Van Vogt. Je prends l'exemple de Van Vogt, un auteur qui m'est cher. Cette manière de faire de la science-fiction a été un tel choc que pour pas mal de lecteurs, elle s'est confondue avec la science-fiction. Hein, on voit arriver ces auteurs, des auteurs comme Asimov, alors c'est pas un Américain, mais un auteur comme Arthur C. Clarke et compagnie. Hein, je parle de Arthur C. Clarke, Van Vogt, etc. Ces auteurs ont une manière d'écrire, une manière d'aborder les choses, une espèce d'une part, on va dire stylistique un peu, hein, d'autre part, une ampleur de la vision, hein, qui est différente, qui n'est pas celle des auteurs français. C'est une des différences, et c'est vraiment un choc ressenti par les lecteurs du temps. Hein. C'est pas une imagination, enfin une idée qu'on fait aujourd'hui.
C'était une révolution, oui, on peut le dire. Oui, tout à fait.
Alors justement, puisqu'on part du principe que cet âge d'or de la science-fiction anglo-saxonne a d'un seul coup tout cannibalisé ou tout phagocyté, on va s'intéresser, et c'est ce qui est passionnant dans cette encyclopédie, à ce qui se passe avant justement cette invasion de l'imaginaire. Et moi, il y a une question qui me taraude à lire cette encyclopédie, c'est-à-dire que vous soyez allé chercher des auteurs spécialisés, des auteurs qui font ce qu'on appelle aujourd'hui communément de la science-fiction, ça paraît compréhensible, mais comment avez-vous travaillé sur les auteurs de littérature classique pour aller chercher à l'intérieur de leur œuvre la conjecture romanesque?
On a dit tout à l'heure qu'on allait parler des co-auteurs aussi, oui, qui sont Philippe Murat, Philippe Etuin. Philippe Murat nous a beaucoup aidé sur l'entrée d'Alphonse Allais, qui est un auteur qu'on croyait complètement connaître, abouti, dont les exégètes avaient fait toute la bibliographie, et en fait pas du tout. Pas en ce qui concerne notre domaine de la fiction ancienne, romanesque, rationnelle. On s'est rendu compte, à l'épluchage des quotidiens, qu'il avait fait 170 textes, et encore je suis sûr qu'on en a oublié, c'est la première fois qu'on voit ça recensé en francophonie pour un auteur dit classique, reconnu, archi reconnu, mais cet aspect des choses chez lui est mis en avant pour la première fois ici, oui, y compris la bibliographie. Publié à la Pléiade, bien entendu, mais mais perdu au milieu de ces romans et de ces nouvelles.
Mais aller chercher, par exemple, dans la ville de Claudel, comment vous procédez? Moi, c'est ça que je trouve fascinant.
C'est comment on procède, en fait. Mais autrement, sur l'inspiration, pourquoi faire ça? C'est encore une fois Pierre Versin. Lorsqu'on feuillette l'encyclopédie de Versin, on se rend compte que lui a trouvé de la conjecture romanesque rationnelle, ou la science-fiction, si on veut dire plus vite, chez des auteurs parfaitement inattendus.
Paul Valéry.
Je pense qu'il a initié cela, et justement, ce que je disais un peu tout à l'heure, dans cette espèce de groupe de passionnés, informels, mais qui s'intéressent à la science-fiction ancienne, et beaucoup aussi à la littérature française, c'était un défi aussi. C'est devenu un défi, un plaisir depuis des années, depuis qu'on lit le Versin, de dire, tiens, tu sais que tel auteur qu'on ne soupçonnerait pas écrire de la science-fiction a écrit de la science-fiction. C'est une sorte de jeu. On trouvait là où on se dit, tiens, celui-là, c'est pas possible, il n'a pas pu en faire.
Gérard Klein, dans sa préface, évoque ce jeu dans lequel il perdait systématiquement contre Joseph quand ils étaient au déjeuner du lundi. Voilà, ça c'est un signe de quelqu'un qui a quand même maintenant un âge assez avancé et qui reconnaît cela, qu'il y a eu une période avant la science-fiction qui était quand même de notre sujet, voilà.
Je sais pas lequel des deux Philippe a un compte Twitter qui est Férocias, mais en tout cas, je pense qu'il est...
C'est Philippe Etuin.
D'accord. On le salue puisqu'il est en train de nous écouter, qu'il live tweet en quelque sorte cette émission. Peut-être.
Il faut qu'il arrête avec ses cartes postales, c'est fatigant. C'est un message que tu passes.
Voilà, écoute, le message est passé.
Philippe, j'adore ça.
France Culture, vous voyez, c'est un peu ça. C'est aussi la radio associative des années 80. On se passe des messages à l'antenne en direct. Un mot aussi. Pourquoi? Alors, on comprend bien avoir la volonté d'introduire, d'aller chercher les chansons, la poésie. Pourquoi avoir voulu, par exemple, inclure dans cette encyclopédie un objet aussi, étrange que la vaisselle de conjectures romanesques francophones? Joseph Alterac, expliquez-moi ça, s'il vous plaît.
Ça, c'est la collection de Guy. Je
crois que vous mentez complètement.
C'est ma
collection.
Mais il y a une exposition. Guy a réalisé une exposition de cette collection.
À Sèvres, il y a deux ou trois ans.
Oui. Alors, je crois qu'il y avait tes pièces et quelques autres, non?
Oui, Alain Grousset.
Voilà, oui, parce que ça paraît peu croyable, mais d'autres personnes collectionnent les assiettes ornées de...
Il faut expliquer aux auditeurs à quoi ça ressemble une assiette de conjecture romanesque.
Alors, vous avez l'ouvrage sous les yeux, donc il suffit d'aller à l'assiette. Ce sont des visuels pour faire plaisir à Joseph, puisqu'il a découvert ce mot il n'y a pas longtemps, d'assiettes ornées, les amateurs appellent ça des assiettes parlantes, qui figurent une scène au centre de l'assiette. Ce sont souvent des assiettes à dessert, et sur le marli, une espèce de frise qui, dans le cas de la série du XXe siècle, qui est la seule qu'avait repéré Versin d'ailleurs, c'est ce qui m'avait donné envie d'en trouver d'autres, possède des poteaux électriques un peu comme dans le bandeau du matin, le journal quotidien, où il y a des... Allez, ça n'existe plus, hélas, pour les jeunes, j'explique, c'est des poteaux télégraphiques qui supportent des porcelaines blanches sur lesquelles sont fixés les fils électriques du téléphone ou de l'électricité. Voilà. Cette frise fait le tour de toutes les assiettes de cette série du XXe siècle, qui est parue en 1880, donc qui représente des scènes de chasse sous-marine, de chasse souterraine, de la place des femmes avocats, vous voyez, toute l'évolution des féministes de l'époque qui s'étaient donné rendez-vous sur ces types de supports. Moi, ça m'a passionné, oui.
Justement, il y a votre camarade Philippe Férocias qui dit que dans les auteurs peu attendus, il y a Eugène Potier, l'auteur de L'International, Joseph Alterac.
Oui, je crois que c'est plutôt... Alors, évidemment, ce Philippe-là, Philippe Etuin, alias Férocias, est un redoutable chercheur. Je crois que l'aspect chanson a beaucoup intéressé aussi Philippe Murat.
Oui, qui est très, pour les chansons de Béranger, par exemple.
Très chanson, effectivement. Les chansons de Béranger, d'ailleurs, qui posent des problèmes bibliographiques de date un peu compliquée. Mais ça, vous voyez, c'est l'esprit, c'est cet esprit, entre guillemets, amateur de vieille SF.
Et communautaire,
On traque depuis des années, on se connaît souvent entre nous depuis 20, 30, parfois plus de temps.
Mais moi,
ça.
Plus, oui, forcément, voilà, je suis plus âgé. Ouais.
Et c'est un jeu. Alors, à force de creuser, on finit par passer pour des érudits, ce qui nous fait beaucoup rigoler.
Parce que vous pouvez être... Vous faut être reconnu très légitimement érudit dans le domaine que vous avez exploré depuis des années.
Voilà, on va dire ça. On peut être à la fois très fier et très amusé.
Ça veut juste dire qu'on aime la lecture, hein, c'est tout.
Pour les jeunes, il faut lire.
Tout à votre un mot. Vous me faites perdre mon fil.
Qu'est-ce que enfin parvenu.
Je voulais peut-être parler de quelques voilà c'était ça ma question. À quel moment on s'arrête quand on creuse et quand on a toutes ces références et on imagine que ça devient relativement infini, c'est-à-dire que à la fois dans la littérature classique qu'il est humainement impossible dans une vie de recenser toutes les occurrences cette conjecture romanesque dans l'ensemble de la littérature dite classique, mais de la même façon que vous n'avez peut-être pas débusqué l'ensemble de tout ce qui a pu être publié de manière de plus en plus confidentielle. Donc à quel moment on dit ça suffit, Guy Coste?
Quand l'éditeur nous met le pistolet sur la tempe.
Il faut dire que vous avez passé 10 ans à travailler.
On a mis 10 ans à peu 11 près, ans exactement. À rédiger. Après, les recherches, c'était bien avant. Mais oui, 10 années de rédaction. On travaille par mail, hein, tout simplement, en échangeant, en comparant, et en validant à un moment donné telle ou telle entrée. Bon, après, on la met dans un dossier qu'on ne retouche plus, ou qu'on est censé ne plus retoucher. Mais ça, ça fait rire Jo. Et voilà comment nous fonctionnons. Après, pour le moment fatidique où il faut s'arrêter, c'est un drame, hein, on le vit très mal. Hein. Oui, on arrête là, bon, d'accord, on arrête, et puis en fait, on en retrouve une autre, et ainsi de suite, et ça peut gonfler. On est dès à présent capable de faire presque une bonne centaine d'occurrences de plus. Oui. Et puis, on a des copains qui jouent au jeu de dire, ah ben, je ne vous l'ai pas dit avant, mais en fait, ce titre-là, il devrait bien aller dans Rétrofiction.
Voilà. Ouais. Alors maintenant, je ne pense pas, enfin, c'est un pari, je doute beaucoup...
D'en trouver énormément.
On en trouve. Là, on a. Il faut dire qu'on est tellement large. Hein, donc, par exemple, on a une énorme. Beaucoup de dessins de presse, par exemple. Mm-hmm. Alors, un dessin de presse, ça fait une occurrence déjà. Hein. Alors, comme on a décidé de faire ça, il est évident qu'on trouvera pas mal d'autres dessins de presse préhistoriques avec des parodies ou des robots. Enfin, il y en aura forcément plein d'autres. Hein. De romans feuilletons, peut-être. Des nouvelles, sans doute, on en trouvera. Mais je pense malgré tout, et ça c'est une impression que j'ai depuis des années qu'on travaille dessus, et en discutant aussi, en comparant avec nos amis, hein, ou collectionneurs, ou chercheurs, ou passionnés de l'histoire de la presse, etc., je ne pense pas que... On puisse faire une mise à jour de cet ouvrage en ajoutant, je ne sais pas, je dis un quart de plus de références, ça me surprendrait. Je pense que nous avons couvert la majorité. Il y a bien sûr qu'il y a d'autres choses. La preuve, on a déjà un peu moins d'une centaine de petites occurrences qu'on peut rajouter. Mais très honnêtement, dans les choses qu'on a en plus, il y a absolument rien de...
Le capital, oui, il n'y a pas de gros oubli qui nous ferait couvrir la tête de cendre.
Non, j'aime beaucoup cette image. Est-ce que ça veut dire que la suite de vos travaux, c'est une révision, une édition augmentée de ces deux volumes de Rétrofiction, ou est-ce qu'il y a aussi un travail à faire de recension post-1951 jusqu'aux années 2000, par exemple, Guy Coste?
Alors, il y a un travail à faire, c'est absolument certain.
Qui est lui aussi titanesque. Hein,
oui, parce complètement. Voire plus important encore que ce qu'on a pu réaliser là. Parce que ça fait Flores, voilà, tout simplement. Et que... il faudrait pouvoir se plonger à nouveau dans la presse, dans beaucoup de choses, pour faire l'équivalent de Rétrofiction à partir de 52. Est-ce qu'on en aura la force ou l'envie ou le besoin? Ça, je laisse Joseph répondre.
Pour ne pas perdre la main, comme on disait tout à l'heure, à tout hasard, on recense tout ce qu'on trouve encore pour faire un petit dossier de la période considérée de Rétrofiction. Ça paraîtra un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Arrivera aussi un jour où on sera obligé, ça prouve bien qu'on n'est pas hyper enthousiaste comme ça, parce que c'est souvent parce qu'on n'y connaît rien, c'est de transformer tout cela de manière informatique. Un jour, il faudra bien que ce travail qui existe là sous forme de volume, parce que nous tenions absolument à avoir un volume entre les mains comme le Versin, parce que c'est comme
c'est
ça.
La nostalgie.
On est de la vieille, on est de l'époque du papier, hein, on est les derniers, la poignée de personnes qui s'intéressent
encore au livre. C'est génial de tenir ces deux volumes énormément par ailleurs. C'est un vrai plaisir de lecteur aussi.
C'est la raison, c'est la raison. Mais il est bien évident que il est absolument indispensable que ce type de travail se trouve disponible de manière informatique, d'une manière ou d'une autre. Alors ça, on y réfléchit.
C'est pas facile,
mais on le fera. Bon, voilà, on le fera un jour ou l'autre. On le fera. Mais pourquoi continuer? On peut continuer. Faut-il, voilà. Mais on ne peut pas, je pense qu'il n'est pas possible de le faire de la même manière. On ne peut pas recenser toutes les nouvelles, toutes les publicités, les dessins d'humour, et dépouiller tout ça, et puis donner à chaque fois, comme on l'a fait dans Rétrofiction, un petit résumé ou un petit extrait. Ça deviendrait de la folie.
Un commentaire bibliographique, en l'occurrence.
Ça deviendrait, voilà, un commentaire.
Ou ça, ça demande peut-être une
collaboration plus élargie.
Autant avec ces deux volumes, je pense qu'on peut, avec Rétrofiction, le lecteur va avoir une vision d'ensemble. Autant si on faisait la même chose sur les périodes récentes,
jusqu'à nos
jours, lecteur perdrait la vision d'ensemble. Il serait totalement noyé, beaucoup plus que dans Rétrofiction. Les auteurs importants n'apparaîtraient pas, voyez, il y aurait trop de problèmes.
Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais que pour les auditeurs, vous nous fassiez un peu rentrer dans ce qui est votre extract, vraiment ce que vous préférez, les entrées les plus insolites ou celles qui sont simplement les plus chères à vos cœurs, que ce soit des entrées thématiques, des auteurs, des ouvrages, que vous fassiez un peu profiter de la substance de cette encyclopédie. Je sais que c'est une question difficile, mais Guy Coste, si on devait, un auditeur qui va se procurer cette encyclopédie, vous lui diriez mon entrée, celle que j'ai pris le plus de plaisir à rédiger, à lire, alors, à intégrer, ce serait laquelle?
Je vais répondre de manière un peu biaisée. Il y a des auteurs qu'on croyait bien connaître pour quelques occurrences. Je pense au dessinateur Henriot, par exemple, qui a fait des volumes assez importants et intéressants dans ce domaine-là. Mais on s'est rendu compte, en le cherchant et en le traquant, qu'il en a fait plus de 150 dessins de ce domaine, de ce type-là. Donc c'est devenu, par le nombre d'occurrences, un auteur hyper important, alors qu'on pensait que ça serait limité à 3 ou 4 entrées. Ça a été vrai aussi pour un autre feuilletoniste du 19e, début 20e aussi, Marius Monnier, que moi j'adore. Il a fait des romans feuilletons exceptionnels, qu'il illustrait lui-même ou qu'il faisait illustrer par Carsten Raven, parce qu'il n'avait plus le temps, parce qu'il était pris par d'autres travaux. Voilà, une entrée que je conseille aux jeunes lecteurs, qui va trouver une vieillerie, certes, mais passionnante.
Joseph Alterac.
Pour ma part, là aussi, c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais j'ai éprouvé un intérêt décuplé, alors que ça m'a toujours intéressé, pour la bande dessinée. Et notamment la bande dessinée, alors après ce que nous on appelle dans Rétrofiction les récits sous images, des cases et puis dessous le texte, mais disons les débuts de la bande dessinée dite moderne, avec des bulles, avec des ballons, disons, etc. Donc à la fin, toute fin des années 30 et cette période, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 51, quasiment jusqu'à 49 pour des questions de censure de la loi française qui sont bien connues. Bon, il y a un groupe là de dessinateurs et de scénaristes, alors difficile à repérer souvent maladroit pour les dessinateurs, souvent un peu superficiel pour les scénaristes, mais pourtant assez fascinant. Pour moi il y a un petit bloc qui est la science-fiction en bande dessinée francophone, on va dire de 1938 à 1951, qui est un petit monde foisonnant, étonnant, que certains collectionneurs connaissent, la bande dessinée est couverte par pas mal de gens, mais là il y a quelque chose à creuser, il se passe quelque chose d'amusant. Cette fusion entre la science-fiction et la bande dessinée, c'est naïf, c'est maladroit, mais c'est grouillant. Et je crois qu'on n'a pas tout à fait on n'a pas complètement fait le tour.
Moi, j'étais très, très surpris. Alors, c'est peut-être dommage de conclure là-dessus, mais j'étais quand même surpris de trouver des entrées à Maurras et Drieu-La Rochelle, Guy Coste.
Parce que Drieu-La Rochelle, pour ses poèmes, a été quelqu'un qui a compté dans ce domaine-là. C'était un très grand érudit. Il s'est fourvoyé dans une collaboration regrettable. Et c'est
Maurras,
ce qui a dû.
Drieu, à la limite, je comprends. Non, mais littérairement, Drieu, on peut comprendre.
Maurras, moi, m'intéresse pas du tout.
Non, mais c'est quand même.
Alors, Maurras, ça vient du fait que dans son journal, l'Action française, de manière curieuse, alors ça c'est à cause, on va dire à cause, on va pas dire grâce, à cause de Gallica, qui permet de consulter les journaux. Et comme on a travaillé, évidemment, forcément, en faisant des mots-clés, en cherchant des mots-clés, à un moment donné, en anticipation, des choses comme ça, je crois que c'est moi qui l'ai trouvé, celui-là. On est tombé, je me suis aperçu que dans l'Action française, journal que je fréquente fort peu, certains critiques parlaient d'ouvrages de science-fiction de l'époque, des années 30. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur ce texte de Maurras. Bon, ça va pas si loin que non plus.
C'est une petite entrée.
Voilà.
C'est presque dommage de terminer là-dessus.
C'est une uchronie.
C'est au moins, on ne peut pas nous taxer de censure.
Exactement.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ce travail déjà incroyable et puis pour votre sympathie et votre enthousiasme à venir le défendre. Guy Cos, Joseph Alterac, rétrofiction ou encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone. Et puis on salue aussi Philippe Murat, Philippe Etuan, comme vous teniez à le faire. Et puis Philippe Etuan qui était avec nous sur Twitter tout au long de cette heure. C'est aux éditions Ancrage et Belles Lettres. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulf, Francine Lezenne, Tom Humdenstock, Massimo Bellini qui était avec nous à la réalisation toute cette semaine et qu'on salue, et à la technique Amine El-Mansari. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.